pour certains experts, d'ici quelques années, on verra la première licorne qui sera simplement gérée par une seule personne qui managera une armée de bots sur le web.
Bonjour Nicolas Diacono.
Eh bien bonjour Jérôme.
Vous êtes consultant en prospective technologique. Vous avez la société Nincotech, vous avez une chaîne YouTube également où vous décryptez tous les grands salons, les tendances, les grandes innovations. Vous étiez donc récemment à cet événement South by Southwest aux États-Unis. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler un petit peu ce que c'est que ce South by Southwest ?
Décliné sur le cinéma et maintenant c'est sur toutes les industries interactives. Donc on a trois grands événements en même temps à Austin pendant une dizaine de jours. Et moi, je couvre particulièrement le track interactive qui est vraiment sur, comme le dit l'organisateur Hugh Forrest, c'est le cycle de conférences qui permet de vous projeter dans les 5 prochaines années sous l'angle de la technologie.
Alors cette année, c'était quoi ? C'était quoi le progrès ? De quoi on parlait ? Quelles étaient les grandes tendances ?
Bon, il n'y a pas de surprise. Hein. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais c'est pas nouveau en fait. À South By, il faut savoir que depuis 5 ans, on en parle beaucoup à South By sur les dangers, les risques, la montée en puissance des grands acteurs, des GAFAM, ainsi de suite. Et cette année, évidemment, on a été encore plus loin. Et je vais mentionner la papesse de la prospective technologique qui s'appelle Amy Webb, qui, évidemment, chaque année à South By, vient faire le show avec son rapport du Future Today Institute, dont elle est la fondatrice. Et forcément, elle parlait de l'IA, mais tous, hein, le MIT est venu présenter ses tendances. Forcément, on parle d'IA, mais aussi de spatial computing. Voilà, tous les grands acteurs, donc beaucoup d'IA, mais à tout va, positif, négatif, neutre. Le spatial computing, comme je l'ai mentionné, mis en avant par le MIT, mais aussi par beaucoup de conférences sur aussi bien Cathy Hackle que Sandy Carter, même Amy Webb, sont revenus sur le fait que c'était l'ordinateur de demain, le fait d'avoir des lunettes connectées, le fameux fantasme qu'on attend depuis 15 ans, on va dire, ou 10 ans. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place, qui s'accélèrent. Et puis, évidemment, beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est biologie de synthèse, le fait de manipuler l'ADN, pour la santé, mais aussi pour créer des aliments, pour beaucoup de choses. Tout ce qui est autour, alors ça c'est spécifique à South By, hein, les psychédéliques, le cannabis, champignons hallucinogènes, pour la gestion de l'humeur au travail, la créativité et autres. Donc ça c'est un track à part. Tout ce qui est autour de la mobilité, du commerce, évidemment de l'énergie. Il y a eu des conférences sur la géothermie comme solution énergétique pour sauver le monde face aux énergies fossiles. Voilà. Donc c'est très très éclectique. Et en fait, chaque année, moi, ça fait 9 ans que je couvre, je prends une grande claque pendant une semaine quand j'assiste à South By.
Ah oui.
Et vraiment, les deux gros sujets, en tout cas, qui ressortent, c'est vraiment l'IA et spatial computing sur vraiment l'angle tech.
Alors, justement, on va parler de l'IA. Juste avant, ce qu'on appelle le spatial computing, donc, qui a été un peu mis sur le tapis par Apple avec son casque Vision Pro, puisque c'est le terme qu'ils emploient, hein, l'informatique spatiale. Qu'est-ce qu'on apprend de plus par rapport au discours marketing d'Apple, justement ?
Alors, on va aller plus loin, c'est-à-dire que l'objectif, c'est effectivement, c'est tout l'intérêt d'un événement comme ça, c'est-à-dire que les speakers sont cooptés par la communauté, hein, qui valide le fait de vouloir entendre telle ou telle personne. Donc, ça chante pas mal les discours commerciaux sur l'ensemble des présentations. Et ce qui ressort, c'est qu'on va avoir une fusion, on va dire, effectivement, de ces devices connectés. Amy Webb a parlé de face computer, d'ordinateur facial qu'on aura devant les yeux, avec l'IA. Et en fait, potentiellement, à terme, ça veut dire que l'interaction qu'on aura avec notre environnement ne passera plus fondamentalement avec nos yeux humains et notre smartphone, mais directement via ce device connecté qu'on aura devant nos yeux, device connecté qui va pouvoir traquer la dilatation des pupilles, qui va pouvoir traquer le regard, anticiper nos actions grâce à cette dilatation des pupilles. Voilà, ça va très, 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 très loin. Et forcément, c'est le renouveau de la réalité augmentée, hein, qui n'est pas une technologie nouvelle. Hein, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Mais là, c'est vraiment mis au fait du fait de pouvoir avoir une fusion des mondes virtuels et réels via ce device qu'on aura devant nos yeux, alors qui n'est pas forcément l'Apple Vision Pro, parce que c'est la première itération et bon, il y a des défauts, tout n'est pas parfait, même s'il est très, 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 très bien abouti. Mais ça veut dire à terme, voilà, c'est aller pouvoir faire son shopping, reconnaître des produits qui nous plaisent dans la rue, sur quelqu'un et les acheter automatiquement. C'est travailler sur le multitasking, comme on a vu des démos, des vidéos, où je vais pouvoir épingler plusieurs écrans, on va dire, dans ma maison en télétravail et travailler sur du multitâche. c'est aussi tout ce qui est autour de l'éducation, de la formation, beaucoup de choses comme ça. Et puis la logique de gamification, évidemment, qui va s'accélérer. Mais en tout cas, ce qui est prédéfini, c'est que globalement, ça sera notre nouveau smartphone, sera ce face computer, selon ces experts de la prospective. Alors, c'est pas pour demain, hein. On est sur une échelle de temps, peut-être 5 à 10 ans. Mais voilà, ce qui est pas sans rappeler de certains cycles, comme j'ai déjà mentionné, il y a quelques années, où on nous vendait déjà ces lunettes connectées. Donc maintenant, à voir avec la force d'Apple et de la facilité d'usage, le fait qu'ils rendent ça très intuitif.
Ouais, mais vous avez senti une vraie, conviction dans tout ça, ou c'est juste une hypothèse parmi d'autres portée par justement le Vision Pro ?
Non, je pense que c'est une vraie vision qui est pas nouvelle. Hein. Moi, il y a 4-5 ans, j'avais entendu parler Robert Scoble qui prônait déjà ce côté-là. Bon, il s'était un peu enflammé sur l'échelle de temps, mais voilà. Donc l'idée, c'est, on sent qu'en tout cas, l'Apple Vision Pro est en train de changer un paradigme sur l'interface utilisateur de l'homme, de l'être humain, qui potentiellement pourrait passer du smartphone à ce device, mais grâce à l'IA générative, évidemment, intégrée dedans, parce que c'est potentiellement l'IA qui va pouvoir faire découler des cas d'usage pratiques et faciliter notre quotidien. Quand je parle d'IA, c'est aussi bien du computer vision qu'effectivement ce côté IA générative, ou potentiellement à terme, ce qui ressortait chez certains experts, c'est qu'on pourrait créer son propre univers, un petit peu comme dans Black Mirror, malheureusement, où on aurait notre propre écosystème, ce qui soulève aussi, dans certaines conférences, des questions sur le sentiment de solitude, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, 80% de la Gen Z a aimé, en tout cas, des sentiments de solitude, de dépression et autres. Et donc, quid demain, si on est enfermé derrière un casque, je pense que ce chiffre va monter en pic, et donc c'est des risques aussi sociétaux, sur pas mal de générations. Donc il y a du bon et du mauvais, évidemment, comme toujours, donc, à prendre dans ces sujets-là.
Alors, en matière d'intelligence artificielle, Nicolas Diacono, l'année dernière, c'était ChatGPT qui venait d'arriver. Cette année, on est déjà passé à autre chose avec la multiplication des services d'IA générative. Le futur vu depuis South by Southwest, c'est quoi ?
Alors, le futur, il est assez pragmatique. On n'est pas vraiment sur l'aspect purement technologique, de savoir combien de tokens, la puissance de calcul, enfin bref, tout ça. Même quand bien même, on a eu la boss de AMD qui est venue parler lors de South by.
Donc, les processeurs.
On est vraiment sur des cas d'usage, sur l'organisation. Par exemple, Yann Bierkraft est revenu sur le fait que c'était la fin des experts dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on va avoir des généralistes qui vont être des maîtres de bots, qu'ils vont envoyer faire des mini-tâches pour le travail qu'on va leur soumettre, et on va rentrer de plus en plus vers des hyper généralistes qui seront des bot managers et des IA managers en fonction des tâches qu'on va leur allouer, qu'on va leur demander de réaliser. Et il y avait également une conférence, 3-4 conférences qui sont revenues sur ce sujet-là. Une autre qui était sur les digital minions, qui a fait le parallèle avec, vous savez, le film Moi moche et méchant, les mignons. En gros, c'était sur les bots, c'était assez drôle, puisqu'il disait, pour lui, les bots, c'est comme les mignons dans le film. C'est-à-dire que quand on est surveillé, tout se passe très bien, mais dès qu'on tourne le dos, les bots vont faire n'importe quoi. Ben, c'est un peu ça. Peut-être demain, nos métiers, c'est d'aller choisir les bons bots, les manager au mieux, les superviser pour être le plus productif possible. Donc ça, c'était un pan. L'autre pan, c'était les nouvelles itérations, c'est-à-dire que c'est, pour Amy Webb par exemple ou d'autres, c'est la fin des LLM. On va aller sur les LAM, c'est-à-dire les Large Action Model, c'est-à-dire qu'on va avoir des IA génératives qui vont anticiper et créer des actions. C'est-à-dire qu'on va plus créer que du contenu, on va créer de l'action. Donc après, on peut lier ça à de la robotique, à des outils industriels, à de la production. Enfin voilà, on peut aller très très loin, et c'est sans fin sur ce sujet-là. Donc vraiment, c'est réorganisation de l'entreprise, refondement complet l'organisation des entreprises autour de l'IA, que c'était pas un nice to have ou un élément de différenciation. C'est-à-dire que demain, si votre entreprise est pas investie autour d'outils d'IA, c'est la fin pour l'entreprise. Ça devient des prérequis. Donc c'est tous ces changements, ces accélérations. Et puis on voit aussi, et on peut le voir sans parler de South by, de la conférence d'hier soir de Nvidia, il y a une hyper accélération de tous ces écosystèmes technologiques, de la puissance de calcul et autres. Donc, on est dans une phase de croissance hyperbolique, exponentielle. Et ça, le cerveau humain ne sait pas le faire. Nous, on sait aller d'un point A à un point B. On peut monter en côte, mais le côté exponentiel, on a du mal à se projeter. Donc, avec des puissances de calcul qui vont faire x5, x10 par an jusqu'en 2030, imaginons, c'est difficile d'imaginer où est-ce qu'on sera. Donc ça, c'est des vrais enjeux pour le management, pour le leadership, au sein de ces entreprises-là. Et pour certains experts, d'ici quelques années, on verra la première licorne qui sera simplement gérée par une seule personne qui managera une armée de bots sur le web.
Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des inquiétudes, notamment dans le domaine de la création ? Parce qu'on a l'impression que pour en ce qui concerne la création, la créativité, la musique, les images, le texte même, tout ça, c'est une très bonne nouvelle pour la créativité et la création, mais pas forcément une bonne nouvelle pour les créateurs, en tout cas traditionnels d'aujourd'hui, qui risquent de se faire piller, dépouiller, il y a des questions de droits d'auteur, etc., etc.
Alors, il y a eu des conférences sur ces sujets-là. Ce qui ressortait globalement, c'est qu'effectivement, il y avait des problématiques de droits d'auteur. En gros, si je fais un raccourci sur les deux, trois conférences que j'ai vues sur ces sujets-là, c'est globalement, la blockchain, c'est la solution. C'est ce qui nous permettra de traquer l'origine des contenus, de la création, les droits de la propriété, tout passera par la blockchain. Voilà, ça, c'est un premier point. Le vrai risque, aujourd'hui, il est plutôt dans le biais des IA. C'est-à-dire, il y a des études qui ont été menées notamment, puisqu'il faut savoir que la TSA, donc qui est l'instance de sécurité, notamment dans les aéroports américains, veut utiliser la biométrie, la reconnaissance faciale. Mais il y a un biais, puisqu'en fait, si vous êtes une femme de couleur noire, eh bien, vous avez un taux d'erreur de reconnaissance de 30% versus un homme blanc. Donc, ça soulève des gros...
Encore aujourd'hui, parce qu'on connaissait ce problème il y a quelques années, mais...
Encore aujourd'hui, alors ça s'est un peu amélioré, mais alors les chiffres dataient de 2019, mais ça s'est un peu amélioré, mais il y a encore cette différence-là. Donc il y a des vrais sujets sur les biais intégrés dans l'IA, et les biais en fait, ils viennent de la donnée qu'on donne évidemment à l'IA pour s'entraîner, mais aussi du design, de comment on pense ses produits, comment on pense son business, et c'est tout le sujet aussi de beaucoup de conférences, c'est autour du design, qu'il soit dans l'équité, l'inclusion à l'heure de l'IA, et que c'était le rôle des designers et d'intégrer le design aussi dans l'implémentation des outils de l'IA, justement pour éviter ces biais-là. Donc ça, c'était d'autres sujets. Donc il y a effectivement tous ces biais-là, tous ces risques-là, tous ces risques de dépendance aussi, d'asservissement, on va dire, du cerveau humain aux IA, puisqu'en fait, on va être dans l'hyper-facilitation d'accès au contenu, mais quid de la réflexion et de l'entretien de notre cerveau, justement par rapport à cette logique d'apprentissage, de retenir l'information, de calcul et autres. Voilà, donc il y avait pas mal de sujets là-dessus, mais il y a aussi des choses positives comme l'usage de la reconnaissance sonore en Amazonie pour identifier les espèces, faire de la protection naturelle, et identifier aussi quand il y a des coupes sauvages, parce que l'IA peut reconnaître des bruits de scie, de tractopelles et autres. Donc ça permet d'alerter les autorités. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des risques, comme partout, rien n'est magique. Mais ce qui ressortait globalement, c'est que le problème, c'est pas la technologie, c'est l'être humain. C'est, voilà, quel être humain, quelles sont les volontés de l'être humain derrière ces IA, leur objectif. Et ça, c'est le vrai sujet, parce qu'il y a aussi toute une forme de conférence autour de la politique, de la gestion humaine, des villes et autres. Et il y a beaucoup de sujets au Texas, parce que ça a lieu à Austin, sur l'avortement, évidemment, qui est banni dans cet état-là. Voilà, le droit des femmes, enfin bref, des minorités. Il y a des vrais sujets, en tout cas aux US, qu'on prend en compte sous l'angle de la tech et des risques associés à l'IA. Parce qu'évidemment, il faut savoir que au Texas, il y a quand même une forme de désinformation. Il y a des milliers de livres aujourd'hui qui sont retirés de certaines bibliothèques municipales pour des raisons purement politiques. Donc, imaginez l'IA à des usages avec toute la montée en puissance des deepfakes, de tout ce qu'on peut voir sur les élections à venir. Il y a des vrais enjeux derrière de sécurité, ce qui a fait dire d'ailleurs à Hugh Forrest, qui est le chef de la programmation de Source By, qu'il fallait pas recommettre l'erreur des réseaux sociaux et qu'il fallait réguler au maximum l'usage de l'IA pour éviter toutes ces malversations.
Il y a aussi ceux qui se déclarent comme pro-humans, c'est ça, qui sont un peu le pied sur le frein par rapport à l'innovation en matière d'intelligence artificielle.
Alors sur Source By, pas tant que ça. On est plutôt, c'est plutôt une population qui est technophile, hein, mais on alerte sur les usages, sur les dérives de la technologie et des dangers de ces dérives-là. L'idée, c'est qu'effectivement, comme en gros, le biais majeur dans toutes les techs, c'est l'être humain, c'est se prémunir de tout ça et de demander des régulations, mais avec des gens, et de former au maximum les élites, les gens qui nous dirigent, parce que pour reprendre certaines conférences, il y a ceux qui nous dirigent majoritairement des gens qui ne comprennent rien à la tech et qui font tout et n'importe quoi, et qu'il faudrait vraiment toute un protocole d'éducation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, moi, j'étais agréablement surpris de voir des membres du gouvernement des Pays-Bas, présent à Sourcebuy avec donc l'équivalent du secrétaire au numérique qui était là avec tout son cabinet pendant donc le vendredi au lundi pour couvrir Sourcebuy parce que c'est aussi pendant le week-end et prendre son shoot on va dire de tech de prospective et ramener ça derrière au niveau politique. Je trouvais que c'était très intéressant d'avoir cette logique là.
Mais est-ce que vraiment aujourd'hui, ce sont les politiques qui sont déconnectés ou ne sont pas dans certains cas les dirigeants de ces nouvelles big tech qui, eux aussi, ont tendance peut-être à partir un peu dans tous les sens en se disant « de toute façon, si je fais des bêtises, le politique me rattrapera, mais après tout, moi, c'est business first
». Ça, c'est complètement le mindset américain. Hein.
C'est
on innove et puis après, on voit ce qu'on nous dit. Alors que
il y a pas beaucoup de prise de conscience et de responsabilité en amont, en fait. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il se passe la même chose aujourd'hui avec l'IA.
Mais c'est pour ça, d'où la remarque de Hugh Forrest, hein, le chef de la programmation. C'est-à-dire que on voit les ravages quelque part qu'ont fait les réseaux sociaux. Et ça m'a fait penser d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais suivi il y a 2 ans, une conférence sur du Pentagone, donc qui était présent à Sourcebuy avec une société sur les deepfakes, pour dire que pour eux, les premier risque de stabilité politique, c'était les réseaux sociaux et qu'il fallait interdire les réseaux sociaux aux moins de 18 ans parce qu'on était dans la manipulation des masses et c'était les populations les plus enclins à être manipulées politiquement. Donc après, il y avait déjà des prises de conscience, mais l'IA, c'est effectivement le même sujet et on a cette course effrénée aujourd'hui. On le voit, on le ressent quand même sur les conférences. Hein. Il y a le côté, il faut faire très attention, mais il y a ce côté un peu fataliste de dire de toute manière, on peut pas revenir en arrière. Et ça fait partie de l'histoire. Donc, il faut quand même y aller, mais attention comment on y va.
OK. Merci beaucoup, Nicolas Diacono, consultant en prospective technologique. On vous retrouve notamment sur votre chaîne YouTube Nincotech. Donc, à propos de ce South by Southwest, merci.
Merci beaucoup.